France Info.
Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. Comme tous les jours, une demi-heure ensemble avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est président du Parti Chrétien Démocrate.
Bonjour Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Des manifestations ont eu lieu hier soir encore dans la région parisienne. Elles sont consécutives à l'arrestation violente de Théo à la fin de la semaine dernière. Marine Le Pen a parlé de cet événement hier matin sur Europe 1 dans des termes que nous allons entendre.
Les Français n'en peuvent plus, je vous le dis sincèrement, hein, de voir détruit, brûlé, saccagé ce qu'ils ont tant de mal à payer par leurs impôts.
Et elle poursuit en disant qu'un tour de vis est nécessaire. Vous, quelle analyse vous faites de la situation, Jean-Claude Poisson ?
C'est pas tout à fait comme ça que j'aurais abordé le sujet. Je pense que la première chose à constater, c'est que les Français sont respectueux de leur police nationale et de leurs forces de l'ordre. Ils attendent que les forces de l'ordre se comportent également dans le cadre du respect qui est dû aux citoyens. Et là, en tout cas, pour ce qu'on peut en savoir pour le moment, cette affaire de Bobigny est extrêmement grave parce qu'elle constitue une atteinte directe à cette relation respectueuse qu'il doit y avoir entre les forces de l'ordre et les citoyens. On verra bien ce que les enquêtes et la justice
en disent. Les conditions de l'arrestation de Théo, effectivement, ont choqué beaucoup.
L'arrestation a beaucoup choqué. Elle est choquante à certains égards. On attend de la police qu'elle soit en situation, même lorsque des personnes qui sont interpellées résistent, même lorsqu'elles agressent les forces de police, une forme de contention, de maîtrise de soi qui visiblement a manqué dans cet épisode-là. Ce qui pose la question à la fois des moyens des policiers, de leur formation, du message qu'on leur demande de porter, de leur présence aussi. Et les manifestations de ce week-end ont montré qu'il y a cette attente chez les concitoyens et qu'il faut effectivement la respecter. Je souhaite en tout cas qu'on voit très clair, très vite sur ce qui s'est passé effectivement dans le cadre de cette arrestation, parce que je comprends que la justice doive prendre du temps, mais je sens aussi qu'il y a une attente de clarification sur la vérité des faits pour éviter à la fois les
montées de mayonnaise. Ce qui l'ont, selon vous, est nécessaire pour effectivement... apaiser le climat et faire en sorte...
C'est ça, c'est extrêmement tendu. J'entendais un responsable associatif qui disait ce matin, il faisait un parallèle entre les événements de Bobigny de ces jours-ci et puis les banlieues, la crise des banlieues de 2005.
C'était Mohamed Mechmache, c'était chez nous tout à l'heure.
C'est ça.
Je
pense que la tension dans laquelle la société française vit en ce moment est effectivement propice à déclencher de manière plus massive des troubles de cette nature et il faut absolument éviter ça.
Vous voulez interdire la manifestation d'hier comme l'a plus ou moins réclamé François Fillon ?
Moi, je pense qu'il y a des manifestations qu'on doit pouvoir effectivement empêcher de se tenir lorsque par ailleurs nous sommes en état d'urgence, parce qu'on ne s'en souvient plus, mais pardonnez-moi de leur dire ici, on a parlé plusieurs fois à ce micro, nous sommes en état d'urgence au moment où nous parlons. Ce qui veut dire que, nous ne sommes pas nécessairement en situation d'encadrer comme il le faudrait des manifestations de ce genre. Maintenant, cette manifestation, elle est aussi l'expression de la part d'un certain nombre de citoyens d'une volonté de qu'on fasse un peu davantage attention à eux. Il y a malheureusement, et c'est le lot de beaucoup de manifestations, y compris celles qui s'étaient déroulées contre les lois travail de Madame El Khomri, on sait bien qu'il y a dans ce genre de manifestation systématiquement des noyaux de casseurs et de voyous qui viennent perturber tout ça, donc c'était peut-être pas la peine, mais je crois c'est une forme d'équilibre à trouver comme d'habitude entre l'attente des citoyens qui effectivement réclament pour beaucoup aussi une présence calme et tranquille et respectueuse des forces de l'ordre chez eux. Ça repose la question de la police de proximité. Je fais partie de ceux qui pensent que leur suppression était une erreur et je crois qu'il faut revenir aussi à une présence plus régulière, j'ose presque dire conviviale. C'est à propos de la police, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en tout cas plus en relation directe au quotidien avec les habitants, ça permettrait sans doute de régler davantage de questions.
Et voilà. Ces fameuses brigades, pardonnez-moi Jean-Michel, ces fameuses brigades spécialisées de terrain, il y a des gens qui sont là mis en cause, il y a des gens pour dire qu'il faut supprimer ce genre de brigade. Privilégier la police de proximité, supprimer ce genre de brigade.
Mais je pense qu'il faut faire les deux, parce que ce qui est une réalité aussi, et d'ailleurs nous avions à l'Assemblée nationale la semaine dernière un débat sur la modification des modalités d'intervention des forces de l'ordre, en particulier en termes d'usage d'armes à feu pour la police. C'est une demande que nous faisions depuis maintenant 4 ans. C'est entré dans la loi depuis quelques jours. Je crois qu'il faut prendre aussi acte du fait que la violence délinquante a changé de nature. Elle est maintenant plus énergique, elle est plus vive, elle est plus dangereuse aussi pour les forces de l'ordre. Et il n'est pas illégitime, et c'est même nécessaire que les forces de l'ordre soient plus spécialisées, plus à même de réagir à des actes ou des agressions caractérisées, soient également sur le terrain. La police de proximité pour la relation au jour le jour, il en faut. Mais il faut aussi, malheureusement, parce que les délinquants sont devenus plus violents et plus organisés, des brigades spécialisées sont nécessaires. Il faut
les deux. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire donc de ces agitations qui existent après l'arrestation violente de Théo la semaine dernière à Bobigny. Soutenez-vous toujours, puisque nous sommes maintenant à 10 semaines de l'élection présidentielle, François Fillon.
Oui.
Frédéric Poisson. Sans hésitation.
Ah, sans hésitation. Je continue à penser que le projet que M. Fillon a porté pendant la campagne de la primaire, enfin, ayant pris acte des différences qu'il pouvait y avoir entre mon projet et le sien, tout ça a fait l'objet, encore une fois, d'échanges écrits, donc c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas d'autre projet possible
pour
redresser la France. Maintenant, il est très clair. Non, ça ne m'échappe pas du tout, monsieur Apathy, puisque je ne vis pas sur Sirius, donc j'ai été aussi ce week-end dans ma circonscription. J'entends ce que me disent nos électeurs, et d'ailleurs même des gens qui ne sont pas nécessairement nos électeurs. Il reste ce doute qui est porté sur...
Comment vous caractériseriez
non pas son projet, mais sur cette personne.
Comment vous caractériseriez ce doute après avoir entendu vos électeurs, Jean-Frédéric
Poisson? Il porte maintenant sur la capacité que nous aurons à gouverner une fois l'élection présidentielle gagnée, ce qui est chez moi plus qu'un souhait, mais une vraie volonté. Nous devons gagner cette élection parce que je pense que le redressement de la France est à ce prix. Maintenant, la question qui est posée, cette inquiétude qui est celle des électeurs, et d'ailleurs celle d'un certain nombre de nos collègues aussi, c'est comment fait-on pour gouverner une fois qu'on a gagné dans un contexte pareil? Et je crois que ce qui est nécessaire maintenant, c'est qu'effectivement, la justice qui est également saisie et qui est en train d'enquêter, qu'elle tranche vite pour que ce qui doit être levé d'incertitude ou d'interrogation soit effectivement levé. Mais j'observe par ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par François Fillon sur l'outre-mer à La Réunion, dans son discours de Saint-Pierre, je crois, avant-hier. Il y a énormément de choses à dire sur l'outre-mer. J'espère qu'on aura le temps d'en parler deux minutes, mais il faudrait qu'on sorte de cette mécanique infernale dans laquelle, en fait, on parle davantage de ce qui se passe autour des réunions publiques de François Fillon que du cœur de son message. C'est un peu un regret personnel que j'écris, mais je suis sûr qu'on aura le temps de parler du projet dans quelques instants.
Et on y revient justement dans une minute, l'essentiel en une minute. D'abord, il est 8h40, c'est vous, Laurent Sénéchal.
Victoire pour les ATSEM, ce qu'on appelait les dames ou les hommes de service. Après un mouvement de grève, ils obtiennent entre autres le droit de passer les concours de la fonction publique en catégorie B. Le gouvernement doit l'annoncer aujourd'hui. 11 personnes en garde à vue après une nuit de tension à Argenteuil, près de Paris, sans doute en lien, d'après la préfecture, avec l'arrestation très violente il y a 10 jours de Théo à Aulnay-sous-Bois. 4 policiers sont mis en examen dans cette affaire. Ce week-end, une manifestation de soutien au jeune homme a dégénéré à Bobigny. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. La Corée du Nord a testé ce week-end un missile avec succès. Washington, Tokyo et Séoul réclament des sanctions. 160 000 personnes menacées par les inondations en Californie. Le plus haut barrage des États-Unis menace de céder à Lake Oroville. 16 000 personnes ont déjà été évacuées. Alerte aux particules dans le département du Haut-Rhin. Vous roulez 20 km/h moins vite que d'habitude. Le pic de pollution doit durer au moins jusqu'à demain. En revanche, la situation s'améliore dans les Hauts-de-France.
Info. Merci Laurent. Et à tout à l'heure, l'invité politique de France Info ce matin, c'est Jean-Frédéric Poisson. Question Jean-Michel Apathy.
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Alors peut-être que vous êtes bien expliqué, mais je vous ai mal écouté. Que vous ont dit vos électeurs de François Fillon ce week-end?
Ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont troublés.
Oui, ils sont troublés, mais tout le monde est troublé.
Est-ce qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui pour eux voter François Fillon ou pas?
Ceux qui sont ses soutiens habituels, ils voteront.
Mais parmi les gens que vous avez rencontrés,
ils font campagne. Il y avait sur votre antenne également ce matin un reportage qui interrogeait des gens qui faisaient campagne pour François Fillon sur tel ou tel marché de l'Auvergne. Ou d'ailleurs, donc les militants. Oui, c'est compliqué, mais ils sont déterminés.
Ça, c'est les militants.
Comme nous le sommes. Oui, je suis moi aussi.
Ça suffit pas pour faire élire
quelqu'un. Je suis moi aussi un militant politique, monsieur Apathy. Et donc, non, ça ne suffit pas, c'est vrai, mais encore une fois, nous avons la volonté de redresser le pays, donc de faire gagner la France. Les militants et les électeurs nous disent Comment est-ce que vous allez faire alors que l'image est écornée, la campagne est difficile à faire, c'est une réalité, alors que on parle beaucoup, beaucoup plus de ce qui se passe, encore une fois, en périphérie de ce que dit M. Fillon que du cœur de son message lui-même.
On parle de François Fillon.
D'accord.
C'est pas la périphérie. On parle de celui qui veut devenir président de la République. Et on se rend compte que son attitude, il en convient lui-même d'ailleurs, a posé plusieurs problèmes. Il a donné le sentiment d'avoir beaucoup profité des avantages que lui procurait la République. C'est de ça qu'on parle.
On peut continuer d'en parler, mais je crois qu'il s'en est expliqué, alors dans des termes qui ne vous ont peut-être pas convaincu.
Vous avez été convaincu.
Mais moi, je connais le fonctionnement des institutions. J'entends quelqu'un qui dit, écoutez, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Sous-entendu, ça veut dire, je ne recommencerai pas. Je sais pas. Ça, c'est sa décision.
Est-ce qu'on peut élire quelqu'un qui ne pourra pas gouverner? Vous l'avez dit.
Je me demande comment il pourrait, ou comment nous pourrions.
C'est quand même une vraie question.
Mais c'est la question.
Faut-il voter pour quelqu'un dont on se demande?
Oui, il faut voter parce que ce projet est encore là. Oui, il faut faire campagne. Et oui, il faut faire en sorte que la justice tranche le plus vite possible pour lever les incertitudes qui peuvent demeurer dans l'esprit de beaucoup. Je pense que c'est indispensable désormais. Et de toute façon, ce projet est le bon projet pour redresser notre pays. Et il faut qu'il gagne. Voilà quelle est ma détermination aujourd'hui.
Que la justice se prononce rapidement, c'est une critique en creux de l'attaque que fait François Fillon contre l'illégitimité du parquet financier.
J'ai pas de critique en creux à faire, ni d'une manière ni d'une autre. Je pense en tout cas que ce que j'entends de ce que me disent nos concitoyens, c'est qu'ils espèrent eux aussi cette clarification et de lever l'ambiguïté. On ne peut pas continuer pendant encore 60 et quelques jours, 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, qui nous séparent de l'élection présidentielle, à faire campagne dans ce contexte. Il va falloir que ce contexte lui-même bouge. Ce qui peut le faire bouger, c'est une décision rapide de la justice, en tout cas.
François Fillon est actuellement à La Réunion. Il a assisté à une messe célébrée par le père Russel, qui a cité l'évangile de saint Matthieu. Accorde-toi avec ton adversaire pour éviter que ton adversaire te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Comment réagit le chef du parti chrétien-démocrate que vous êtes ?
Je suis ravi de venir sur le plateau de France Info pour entendre lire l'évangile de Saint-Matthieu. Monsieur Branchet, c'est un peu inattendu. Je vous confirme par ailleurs qu'il arrive assez souvent que le prêtre cite l'évangile à la messe du dimanche. Ça fait partie de la liturgie.
Mais c'est lui qui choisit les passages.
Ah, c'est pas lui qui choisit les passages.
Un petit peu quand même. Il fait son serment, il choisit les passages, non ?
Ah non, pas du tout.
C'était programmé depuis longtemps.
Si je peux me permettre. Oui, ça, on connaît les textes. Bien à l'avance, c'est plusieurs années à l'avance, on sait quel texte tombera, donc voilà. Mais si vous voulez qu'on revienne un jour pour parler de tout ça,
tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé
Excusez-moi, le prêtre a ajouté, si tu commets une faute, même si tu n'en as pas conscience, tu es responsable.
Mais c'est juste, c'est toute la morale chrétienne, la morale naturelle qui est dans cette phrase. Ça n'a rien d'étonnant pour ceux qui sont habitués à la fréquentation des Écritures. Vous devriez regarder l'évangile plus souvent, même tous les dimanches, parce que les textes sont souvent d'une actualité absolument pertinente. C'est le propre des textes universels. Je laisse le soin à tous ceux qui ont entendu ce texte à la messe d'hier, dans le monde entier d'ailleurs, puisque c'est le même texte partout, d'en faire leur propre utilité et d'en tirer leur propre profit.
On sourit, mais évidemment, quand François Fillon va à la messe, il n'imagine pas ça. C'est-à-dire que tout est interprété à la lecture de ses agissements passés.
Oui, c'est ce que.
Et on se demande, je ne sais pas si vous vous posez la question, est-ce qu'il peut continuer à faire campagne ?
Mais écoutez, en tout cas, pour l'instant.
Vous vous posez la question
pour l'instant ou pas ? Pour l'instant, il continue.
Ah oui, ça ne nous échappe pas non plus.
Voilà, pour l'instant, il continue. Il est allé parler de l'outre-mer à Saint-Denis de la Réunion et à Saint-Pierre.
Est-ce qu'il peut continuer à faire campagne ?
Mais il est en train de continuer. La question ne se pose pas. Il est en train de continuer. Donc,
Le Monde raconte dans son édition de cet après-midi, le journal Le Monde, que son équipe a du mal à monter des déplacements en province. Cite notamment Clermont-Ferrand, où Brice Hortefeux n'a visiblement pas fait diligence pour organiser les choses cette semaine, et cite aussi, je le dis de mémoire, Limoges.
Oui, Limoges.
Et donc, voilà, vous... Enfin, c'est un embarras pour tout le monde.
Bah, écoutez, nous, en tout cas, une réunion se prépare dans les Yvelines pour la fin de la semaine.
D'accord.
J'avais le maire de Rambouillet ce matin encore au téléphone pour un déplacement, sans doute de Bruno Retailleau, qui se déroulera dans d'autres villes dans le courant du mois de mars. Donc, selon les endroits.
À la fin de la semaine.
Non, c'est une réunion publique.
Ah non, pour je vous parle de
campagne. Ah bah oui, mais enfin, vous savez, nous, en tout cas, pour le moment où nous sommes, Nous faisons cette campagne. Je suis absolument, à titre personnel, déterminé à ce que ce projet gagne. Et donc, puisque c'est M. Fillon qui le porte au Parlement, eh bien, il faudra qu'il soit élu.
Gilles Bornstein.
Un ancien député européen centriste, Jean-Louis Bourlange, a parlé de François Fillon dans des termes qu'on voudrait vous faire commenter. C'était hier dans l'émission L'Esprit Public sur France Culture. On écoute Jean-Louis Bourlange.
Chez Fillon, c'est très net. On a affaire à un candidat qui est à la fois sournois, arrogant et corrompu. C'est certainement le pire des candidats que la droite de gouvernement pouvait imaginer avoir.
Sournois, arrogant, corrompu.
C'est aimable.
C'est
tout à fait courtois. Sournois, ça c'est une appréciation particulière. Corrompu, c'est pas Monsieur Bourlange de le dire. Arrogant, c'est pas l'impression qu'il me donne. Donc,
vous le connaissez bien, François Fillon. Est-ce que vous avez
non,
été...
Non, je ne le connais pas bien. Je ne le connais pas bien parce que nous n'avons pas... il était à Matignon pendant que j'étais député dans le mandat précédent.
Est-ce que vous avez été surpris de ce que vous avez appris?
J'ai été surpris, oui, parce que je ne regarde pas ça avec un détail et une attention microscopique tous les jours. Enfin, la manière dont mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat fonctionnent et organisent leur travail n'est pas pour moi un sujet de préoccupation quotidienne. Donc oui, comme tout le monde.
Et vous constatez, comme nous, que François Fillon, qui était assuré d'être au second tour selon les études d'opinion, ce ne sont que des études d'opinion, n'apparaît plus aujourd'hui comme certain d'être au second tour, ça vous inquiète ?
Évidemment que ça m'inquiète. Évidemment que ça m'inquiète, puisque, comment dire encore une fois, je pense que le projet que nous portons, puisque maintenant c'est le projet de référence des Républicains et des familles politiques de la droite et du centre, ce projet politique est susceptible de ne pas être en situation d'être mis en œuvre. Ce qui serait, je pense, je le redis, dramatique pour la France, en particulier sur toutes les questions traitées par François Fillon ce week-end sur l'outre-mer et les spécificités des territoires d'outre-mer qui sont une question tout à fait centrale pour le redressement de notre pays.
On a l'impression quand même qu'une décision de justice vous arrangerait.
Ça m'arrangerait. Je ne sais pas si on peut dire les choses de cette façon. Je pense qu'en tout cas, ça lèvera un certain nombre d'interrogations et de doutes qui traversent de manière dense, intense, l'esprit de beaucoup de nos sympathisants, de beaucoup de nos électeurs et de beaucoup de Français. Donc, en tout état de cause, oui, à titre personnel, je l'attends pas parce que ça m'arrange, mais parce que ça clarifiera énormément la situation.
Et l'émission politique de France Info se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h50, une minute de Laurent Sénéchal.
8 mineurs et 3 majeurs interpellés hier soir à Argenteuil dans le Val-d'Oise après des heurts avec la police. La veille, une manifestation a dégénéré à Bobigny. Les tensions sont nées de l'arrestation très violente de Théo il y a 10 jours à Aulnay-sous-Bois. 4 policiers sont mis en examen, dont un pour viol dans cette affaire. Visite de François Fillon à la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion, la plus vieille de France. Le candidat de la droite à la présidentielle promet de défendre toutes les religions. Il tente toujours de relancer sa campagne alors qu'il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Donald Trump reçoit le Premier ministre canadien Justin Trudeau à la Maison-Blanche. Il sera notamment question de l'accord de libre-échange ALENA entre Canada, États-Unis et Mexique. Le président américain veut le renégocier. Adèle triomphe aux Grammys. Ce sont les victoires de la musique aux États-Unis. La chanteuse britannique obtient 5 récompenses, dont le meilleur album, la meilleure chanson, le meilleur enregistrement. La cérémonie a été marquée par une apparition du duo français de musique électronique Daft Punk sur scène.
France Info. Jean-Frédéric Poisson avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy, question.
La perspective d'un second tour Marine Le Pen-Emmanuel Macron n'est plus une perspective folklorique. Voilà, ça peut être ça, parce qu'on ne sait pas trop où va cette élection présidentielle. Tout le monde est très surpris du tour qu'elle est en train de prendre. Le Pen-Macron.
Je ne me situe pas dans cette perspective. Encore une fois, j'ai déjà dit ça sur d'autres sujets ici. J'ai pas de boule de cristal. Je me bagarre tous les jours pour que notre candidat soit au second tour et qu'il soit en situation de gagner l'élection présidentielle. Et
vous pensez que toute une partie de l'électorat de droite pourrait être rebuté par Emmanuel Macron et donc du coup soutenir Marine Le Pen, c'est un risque?
Je pense que dans le monde où nous sommes, absolument tout est possible. Vous avez raison de dire que cette élection présidentielle est sans doute la plus illisible de toutes celles que en tout cas qu'il m'ait été donné de regarder de près, ça en fait quand même 5 ou 6, et il peut à peu près tout se passer, parce que l'électorat français, les Français en général, sont très très indécis, ils n'aiment pas le spectacle qui se déroule sous leurs yeux, et effectivement, en particulier, Monsieur Macron manie l'ambiguïté avec suffisamment d'habileté pour que jusqu'ici il puisse en tirer plutôt profit. Mais comme disait le cardinal de Ré, en amour comme en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment.
Bon, moi j'attribue ça à la Rochefoucauld. Vous voyez,
mais je crois que c'est bien le cardinal de Ré.
Oui. Enfin bon. Il y a beaucoup d'auteurs.
En tout cas, c'est pas Saint-Mathieu.
C'est déjà ça.
C'est très ecclésial ce plateau ce matin, monsieur Appetit.
Marine Le Pen a lancé hier un appel à Nicolas Dupont-Aignan, à Henri Guénaud, pour qu'il la rejoigne. Est-ce que ce type d'appel peut prospérer, d'après vous ? Est-ce qu'il a une chance de...
Je n'en sais rien. Je crois qu'il y a dans l'électorat de droite en France, au sens large du terme, une aspiration, effectivement, à ce que la patrie, notre nation, la France, pour dire les choses en un mot, reprenne une place particulière dans les priorités de l'action politique, et puis une attente aussi de la part des Français que leur représentant leur redonne des motifs de fierté d'appartenir à cette magnifique communauté. Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan sont porteurs, comme d'ailleurs François Fillon et moi nous le sommes aussi, de cette volonté de redonner à la France des choses qui sont, au fond, à la fois sa mission, son identité, sa façon d'être. Je ne sais pas si ça peut prospérer. En tout cas, ça correspond, je pense.
Ça vous intéresserait, vous ?
Qu'est-ce qui m'intéresserait ?
Ce regroupement, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Guénaud, est-ce qu'on vous sent un peu au milieu du guet ? Est-ce que vous pourriez exercer de ce côté-là ?
Non, je vous dis depuis ce matin que je ne suis pas du tout au milieu du guet. Encore une fois, il me semble qu'il y a, dans le projet de François Fillon, suffisamment d'éléments qui peuvent répondre aussi aux aspirations qui sont portées par Henri Guénaud et par Nicolas Dupont-Aignan, à une réserve près sur l'évolution de l'Europe, mais je pense que tout ça peut s'arranger assez facilement.
Mais en cas de deuxième tour baroque, comme dirait Jean-Michel, effectivement, enfin, dont on ne sait pas très bien quoi il ressemblerait, qui serait Marine Le Pen et quelqu'un d'autre, est-ce que vous mettriez un bulletin Marine Le Pen ou est-ce que c'est non impossible ?
Je vous répète que je mettrai au second tour de l'élection présidentielle un bulletin qui portera le nom de François Fillon.
Même s'il n'est pas au deuxième tour.
Même s'il n'est pas au deuxième tour.
Il n'y aura pas de bulletin. Vous regardez celui du premier. Alors.
Non, j'écrirai à la main.
Ah, vous écrivez. Ah, ça fait un bulletin nul alors. Si vous écrivez à la main, vous savez qu'il est nul.
Vous le ferez, sincèrement, vous le ferez ? S'il n'y a pas François Fillon, mais sérieusement.
Non, mais il sera. Je n'entre même pas dans cette hypothèse. La question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on se débrouille pour, par notre énergie, notre détermination et notre volonté de faire campagne, qu'effectivement il soit présent au second tour et que nous gagnions. Parce que c'est l'enjeu, il est là. Il n'y a pas de. Donc je ne me situe pas dans une autre hypothèse que celle-là.
Il y a des réunions, j'imagine, des structures de la campagne. On annonce jeudi, je crois, une réunion. Vous y participez ou pas ?
Oui, je suis dans ce qu'on appelle maintenant le comité stratégique de la campagne.
Le comité stratégique. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce comité stratégique Est-ce que tout le monde est abasourdi par ce qui se passe ?
Je ne vais pas vous raconter ce qui s'y passe parce que je ne suis pas habilité à le faire. Mm-hmm. Je ne suis pas coutumier de ce genre de fuite et d'indiscrétion, mais... nous évoquons avec les principaux responsables de la droite et du centre le déroulement de la campagne, un certain nombre de thématiques, l'actualité, enfin ce qui se passe en général dans une réunion stratégique de campagne.
Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on n'entend plus François Fillon dans un débat de fond, qu'il ne participe. On a l'impression qu'il ne participe plus à la campagne, de fait.
Enfin, c'est quand même, Monsieur Appetit, on ne va pas renverser la charge de la preuve, comme on dit dans les tribunaux. Monsieur Fillon a prononcé des discours à Poitiers, à Troyes. À la réunion ce week-end, encore une fois...
Ce qui reste de ces discours, c'est « je ne m'arrêterai pas, je vais continuer, vous ne m'arrêterez pas ».
C'est Jean-Pierre Raffarin faisant siffler la presse.
Si effectivement vous regardez les 5 ou 6 premières minutes de ces interventions, vous lisez ça, mais il reste après 45 minutes sur lesquelles M. Fillon parle du fond. Je reviens sur ce qu'il a évoqué pour l'outre-mer, sur l'abaissement des charges des entreprises, sur le renforcement de la sécurité, sur la question du droit du sol en Guyane et à Mayotte, qui sont des problèmes monstrueux pour ces deux départements français d'outre-mer. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui correspondent à la situation de l'outre-mer, pour ne prendre que cet exemple. Et effectivement, quantitativement, sa détermination, qui fait aussi partie de la posture d'un candidat, c'est parfaitement normal. Elle prend quelques minutes, mais encore une fois, intéressons-nous, prenons l'habitude de nous intéresser davantage au contenu du discours, qui est quantitativement d'ailleurs beaucoup plus volumineux que simplement ce qu'il en reste quand il est restitué.
Donc il n'y a que la justice qui peut vous permettre de relancer la campagne. Vous êtes dépendant de la justice aujourd'hui.
Je pense que d'une manière ou d'une autre, la clarification que doit apporter la justice, oui, sera un élément important. C'est mon sentiment en tout cas.
Et nous sommes, vous le disiez, à 10 semaines de l'élection présidentielle.
Nous sommes à 10 semaines de l'élection présidentielle. C'est encore, c'est-à-dire, comme d'habitude en politique, à la fois un instant et une ère géologique, les deux à la fois.
Un instant et une ère géologique, oui, c'est à peu près ça. Et donc, 10 semaines, ça va très vite, et pour retrouver un équilibre dans cette campagne, ce sera quand même très compliqué.
Ben écoutez, on s'y emploie tous les jours.
On cache l'inquiétude que l'on ressent parce que...
Non, je ne la cache pas, mes citoyens la connaissent.
L'exprimer publiquement, non. C'est impossible pour vous.
Mais bien, c'est pas du tout impossible, je viens de le faire chez vous, comme je le fais dans les bistrots de Rambouillet le samedi matin, puisque je vais au bistrot à la fois par goût et par devoir, comme je dis de temps en temps. mais c'est pourquoi la cacher, elle existe. Pas faire comme si ça n'existait pas, ce serait illusoire de considérer qu'il n'y a pas cette inquiétude qui traverse absolument tous les responsables politiques de la droite et du centre aujourd'hui.
Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté
Merci
notre invitation.
Merci, avec un salut depuis là-haut pour Al Jarreau qui nous a quittés ce week-end.
Et oui, vous aimiez
c'est
beaucoup
une,
Al Jarreau.
C'est une grande tristesse pour moi, oui, absolument.
Alors, écoutez... bah merci beaucoup.
Vous avez piqué votre conclusion,
si madame Sardes. Petit... Non, pas du tout. Non, je me demandais si on verrait une nouvelle extinction dans la prochaine ère géologique. On verra ça donc un peu plus tard. 8h58, merci à tous et à demain.